Amis, frères et sœurs, bienvenue à tous. Avant même que nous fassions quoi que ce soit, avant même que nous demandions quelque chose, avant même que nous reconnaissions nos torts, Dieu nous dit « Je vous donne ma paix. Je vous fais grâce pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous pourriez me dire pour vous justifier, tout ce que vous pourriez me demander. Je suis le Dieu qui aime sa création, son humanité tout entière. Autrement dit, chacun et chacune d'entre nous, tels que nous sommes. Alors voici pour chacun et chacune une parole que vous n'entendrez pas ailleurs. La grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus, le Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacun, chacune pour ce temps de culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le site Internet, qui sont en communion avec nous. Et c'est encore un jour de fête ce dimanche pour notre Église, parce que nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Eva, qui a demandé à recevoir le baptême. Chère famille et chers amis d'Eva, soyez les bienvenus dans ce temple de l'Oratoire du Louvre, ainsi que tous les paroissiens fidèles et les personnes de passage qui sont là peut-être pour la première fois. Pour nous accompagner musicalement, merci à Aurélien Péter qui est à l'orgue ce matin. Eva, Aurélien et moi avons préparé ensemble la liturgie de ce culte. Prions ensemble. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce qui se dit, pour tout ce qui se fait, mais qui ne se voit pas. Merci pour les petites choses de la vie, celles que personne ne remarque, celles que l'on soupçonne à peine. Merci pour cette lueur de joie dans les yeux d'un malade, pour la complicité d'un enfant et le passant d'un instant. Merci pour le geste gratuit, un sourire, une poignée de main, une tape sur l'épaule. Merci pour le silence gardé aux portes de la révolte, pour le pardon donné au lieu de la vengeance, pour la parole d'amour à la place de l'insulte, pour la prière muette au cœur du drame de l'autre. Merci pour l'humble qui se tient à l'ombre du puissant, pour l'inutile en apparence, pour le bien qui jamais ne peut se dire et pour les joies secrètes au milieu des tourments. Nous nous réunissons dans la communion fraternelle en prenant maintenant le premier chant du livret liturgique qui est inséré au début du psautier français. C'est la liturgie de temps de Pâques et ce réponse s'intitule « Ô Seigneur, ta fidélité ». Alors, la tradition de notre Église voudrait que nous chantions debout aussi. Je vous invite à vous lever.
Thank you.
Seigneur, on nous dit que tu nous parles, mais je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. Les seules voix que j'entends, ce sont des voix fraternelles qui me disent les paroles essentielles. On nous dit que tu fais route avec nous, mais je ne t'ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche. Les seuls compagnons que je connaisse, ce sont les êtres fraternels qui partagent la pluie, le vent et le soleil. On nous dit que tu nous aimes, mais je n'ai jamais senti ta main se poser sur mes propres épaules. Les seules mains que j'éprouve, ce sont des mains fraternelles qui étreignent, consolent et accompagnent. Mais si c'est toi, ô mon Dieu, qui m'offre ses voix, ses compagnons et ses mains, alors au cœur du silence et de l'absence, tu deviens par tous ses frères et ses sœurs, parole et présence, loué sois-tu, ô mon Dieu. Amen. Je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 25. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Psaume 25, vous le trouverez dans le psautier français et nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4.
Thank you.
prenez place. Écoutons maintenant ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Fais cela et tu vivras. Je vous invite à la prière. Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais déplacer des montagnes. Mais avec la foi qui est la mienne, Seigneur, donne-moi la force de gravir celle qui se dresse sur mon chemin. Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais vider les océans. Mais avec la foi qui est la mienne, Seigneur, donne-moi la confiance quand les eaux s'agitent. Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais faire de grandes choses. Mais avec la foi qui est la mienne, Seigneur, donne-moi de me réjouir des grandes choses que tu fais. Je n'ai pas la foi comme un grain de moutarde. Elle est si petite, la foi qui est la mienne. Elle me rappelle chaque jour comme j'ai besoin de toi. Seigneur, viens à mon aide. Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Dans la première lettre de Jean, nous lisons ceci : Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Et voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous vivions. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Prenez place. Nous avons la joie d'accueillir maintenant Eva au sein de l'Église chrétienne, l'Église universelle. Dans notre Église, on peut demander le baptême à tous les âges. Eva, l'Église aujourd'hui accueille ton désir avec joie. Elle obéit ainsi à la volonté de Jésus-Christ qui a dit à ses disciples « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eva, nous croyons que cela est vrai pour chacun, chacune, petit ou grand, et même aussi pour ceux qui ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Eva, veux-tu bien t'approcher ? Eva, que demandes-tu ?
Je demande le baptême.
Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
J'aurais besoin de quelqu'un pour le micro. Eva, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Pour toi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Alors Eva, je te passe la parole.
J'ai grandi et été élevée dans une famille chrétienne non pratiquante qui a toujours su répondre à mes questions et qui a toujours accueilli tout type d'idées. Et ma famille m'a également appris à venir en aide à mon prochain, à être empathique et à aimer. Ce qui a suscité ma volonté aujourd'hui de demander le baptême, c'est ma prochaine responsabilité de devenir la marraine de Louis, mon neveu, et de sa petite sœur qui va bientôt naître. Cela m'a fait réfléchir sur mon propre cheminement et de me dire, le baptême, pourquoi pas moi ? Les différentes étapes de ma vie personnelle m'ont conduit à me questionner un bon nombre de fois sur l'origine et le but de mon existence. Je n'aurai jamais toutes les réponses, mais petit à petit, j'ai appris à découvrir l'existence et la présence du Christ qui accompagne les hommes dans leur foi et qui m'accompagne également. Même lorsque l'on doit faire face à des épreuves ou que l'on commet des erreurs, puisqu'on est qu'humain après tout, je suis convaincue et je crois que quelque chose de bon finira par arriver et qu'il y a une force, une présence avec nous. Et pour moi, Dieu est amour et nous le traduisons au quotidien en aimant son prochain sans condition. Et c'est cet amour-là qui finira par l'emporter. Le baptême n'est pas une fin en soi, mais la poursuite de cette aventure qui m'accompagnera dans mon engagement envers mes futurs filleuls, tout comme dans ma vie et dans mes choix.
Merci. J'invite l'Assemblée à se lever pour être témoin de ce baptême et accueillir Eva. Amis, frères et sœurs, voici donc Eva. Alors Eva, si tu peux bien aller jusque là, tu te promènes dans l'allée, par là, vas-y, tu es chez toi. Justement, Eva est ici chez elle. Et vous êtes sa famille spirituelle. Vous prierez pour elle. Vous l'associerez à l'édification de l'Église. Vous l'encouragerez dans son joyeux service. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté. Et si elle venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous serez pour elle des témoins de l'amour de Dieu. Dites avec moi que Dieu nous soit en aide. Oui, que Dieu nous soit en aide. Nous restons debout et j'invite maintenant les conseillers presbytéraux et les conseillers d'entraide à me rejoindre pour bénir ensemble Eva. Ça, c'était la surprise. Alors, Eva, tu te mets au milieu. Les conseillers, vous étendrez vos mains au-dessus de la tête d'Eva. Eva, que le Saint-Esprit affermisse ta foi, t'accorde ses dons et te les renouvelle jour après jour. Amen. Merci. Et je vous invite à chanter maintenant au cantique que vous trouverez dans le Louange et Prière. Alors on change de recueil et nous prenons le petit livre bleu, Louange et Prière, et nous prendrons le numéro 204 dont nous chanterons les strophes 1 et 2. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Prenez place. Nous lirons aujourd'hui dans le Premier Testament un extrait du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, les versets 1 à 13. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage le travailleur retire-t-il de son travail ? J'ai vu l'occupation que Dieu impose aux humains. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Aussi, il a mis la durée dans leur cœur sans que l'être humain puisse trouver l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin. Je le sais, il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant sa vie, et aussi pour chacun, manger, boire et voir le bonheur dans tout son travail, cela est un don de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui nous accompagne jour après jour. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, nous prendrons maintenant le numéro 392 qui s'intitule « Chaque jour de ma vie ». Nous chanterons toutes les strophes de ce cantique, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous invite à vous lever.
Donnez mon cœur. Prenez place. Prions ensemble. Éternel, accorde-moi le silence. Non pas le silence qui me rend prisonnier de moi-même, mais celui qui me libère et m'ouvre des espaces nouveaux. Non pas le silence de l'absence du monologue solitaire, mais celui de l'intimité en ta présence. Non pas le silence de la nuit ou du désespoir, mais celui qui attend la lumière de l'aurore et de l'espérance. Celui qui écoute le murmure de ton esprit qui éclaire pour nous ta parole. Amen. Amis, frères et sœurs, le texte que nous venons d'entendre a été choisi par Eva lorsque nous avons préparé son baptême. Et lorsque je lui ai demandé pourquoi ce texte plutôt qu'un autre, parce qu'on n'avait pas regardé que celui-là, Eva m'a répondu, mais parce qu'il y a tout dedans. C'est la vie tout entière qui est écrite, c'est ma vie, c'est la vie du monde. Le passage que nous venons de lire est certainement le plus connu avec cette phrase passée dans le langage courant « Il y a un temps pour tout ». Avec peut-être aussi un autre verset « Vanité des vanités, tout est vanité ». Sinon, je ne suis pas très sûre que l'on connaisse le reste de ce livre. Tout d'abord parce que ce livre, il faut le dire, n'a pas vraiment bonne presse. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme pessimiste, énigmatique. L'auteur, en effet, est très réaliste et semble parfois tellement désabusé dans ses propos qu'il déconcerte ses lecteurs. Il doute de tout et de tout le monde. L'Ecclésiaste. On pourrait traduire ce mot par « prédicateur ». Dans les nouvelles traductions, en particulier dans celle de la Tob, traduction œcuménique de la Bible, c'est le mot hébreu « kohelet » qui est conservé et qui désigne justement celui qui parle dans l'assemblée. Dans la Bible, ce livre est rangé près des psaumes, près des proverbes, tout près du Cantique des Cantiques. C'est un livre de sagesse poétique, avec néanmoins une écriture particulière, sophistiquée. On suppose qu'il est attribué au roi Salomon, mais rien n'est moins sûr aujourd'hui. Et le fait de dire cela, justement, illustre bien le contenu de ce livre. Au fond, rien n'est sûr, rien n'est acquis, et en même temps, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oh, c'est la troisième phrase de l'Ecclésiaste qu'on connaît aussi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'ailleurs, ça aussi s'est passé dans la liste des proverbes usuels. Au fond, ce sont toujours les mêmes cycles qui reviennent comme une sorte de fatalité. Et en plus, tout aboutit à la mort. Alors vraiment, à quoi ça sert de vivre ? L'Ecclésiaste observe le monde autour de lui. Il partage l'expérience qu'il en a et qu'il en fait. Il constate. Cette constatation lui permet de nous faire profiter de sa pleine lucidité sur le monde, sur la condition humaine, et en quelque sorte de conclure qu'effectivement tout est vanité et poursuite du vent. Et c'est exactement par ces mots qu'il va commencer son livre « Vanité des vanités, tout est vanité ». C'est un mot étrange en hébreu que ce mot de vanité, dont la racine est la même que le mot buée. Alors si on traduit au mot à mot, ça ferait buée des buées, tout est buée. Mais c'est aussi Hébel, la racine du prénom Abel, qui se fait tuer par son frère dans les débuts de l'humanité, raconté dans le livre de la Genèse. Et la buée en français, cela a deux sens. Soit c'est une condensation qui obscurcit une vitre, par exemple, soit c'est une sorte de brouillard ou encore de la vapeur. Vapeur des vapeurs, tout est vapeur. Tout est évaporation. Et quand on sait que notre corps, qui pèse si lourd par moment, décomposé dans sa grande majorité qu'à 60% d'eau, lorsque nous mourrons, nous nous évaporons. Et c'est bien cela le drame de l'être humain. Disparaître de la terre comme une simple évaporation sans laisser de traces. Et c'est là que notre chapitre 3 prend sa place. Il y a un temps pour tout. Chaque étape du temps qui passe est à vivre en pleine conscience, avec ses deux facettes, positives et négatives. Et finalement, l'Ecclésiaste ne dit rien d'autre que ceci. La vie vaut la peine d'être vécue dans la balance où bonnes et mauvaises choses sont là et composent notre vie. Cette balance sera l'expérience qui constituera notre histoire, à la fois unique et irremplaçable, tout comme notre personne. Alors mes amis, il ne vous aura pas échappé la liste des 28 activités possibles que l'être humain peut accomplir pendant sa vie sur la Terre. 14 couples de thèses et d'antithèses. On pourrait les classer en 7 paragraphes de 4 antithèses qui résument des actions et des situations. Faites-le, vous verrez, ça marche très bien. 4 x 7, 28. Oui, c'est ça. Oui. D'un seul coup, je n'ai jamais été très doux en maths, donc voilà. Mais je crois que ça marche. Dans un premier temps, on peut avoir l'impression de quelque chose de bien ordonné et pourtant de bien mélangé. Mis à part la première citation, « naître et mourir » qui concerne le début et la fin de la vie de l'être humain, le reste semble pêle-mêle, comme si l'Ecclésiaste tenait à dire à ceux qui le liront plus tard l'incertitude des situations de la vie. Finalement, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. On peut s'endormir le soir en paix et se réveiller au sein d'une guerre le lendemain matin. On peut pleurer aujourd'hui et rire demain. Nous pouvons parler librement de tout aujourd'hui et être obligés de se taire demain. Finalement, rien n'est acquis. La vie est une succession de temps, de moments, de durées. Ce que nous traduisons par le mot « temps », un seul mot en français, revêt de nombreuses nuances, que ce soit en hébreu ou en grec. Dans un second temps, nous pouvons remarquer que l'Ecclésiaste ne porte pas de jugement sur les situations énumérées. Et là, maintenant, j'emprunte les mots qui suivent à Jacques Ellul, dans le commentaire qu'il a fait de l'Ecclésiaste, intitulé « La raison d'être », qui date de 1987. Il dit qu'il y a deux leçons à tirer de la lecture de ce passage. La première leçon, nous n'avons pas de jugement moral à porter. L'Ecclésiaste ne nous dit pas « il est bien de faire la paix et d'aimer » ou « il est mal de faire la guerre et de haïr ». Il constate juste qu'il y a un temps pour chacune de ses activités et chacun de ses sentiments. Au fond, Dieu a donné un temps pour chaque chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous avons à les prendre en compte, il nous faut tout considérer. Et l'autre leçon que nous pouvons tirer de la lecture de ce passage, c'est que l'Ecclésiaste ne cherche pas à justifier un acte plutôt qu'un autre, il dit simplement que toute la vie humaine est là. Et au fond, nous sommes invités à placer chaque situation dans une perspective, celle que nous trouvons un petit peu plus loin au verset 11 et qui dit « Dieu a fait toutes choses belles en son temps ». Et à travers la lecture de ce passage, nous sommes invités à savoir discerner le temps de Dieu. Et voilà bien toute la difficulté. De quel temps s'agit-il ? S'agit-il du temps qui s'écoule de façon inéluctable, que le grec traduit par « chronos » et qui a donné le nom de chronologie et qui marque une continuité que l'on subit et qui nous fige ? S'agit-il au contraire du temps qui surgit comme une surprise et qui va en quelque sorte casser la routine ? S'agit-il d'une autre notion du temps que la Bible traduit par « éternité » et qui sera la caractéristique même de Dieu, éternel. Au fond, c'est la combinaison des trois qui offre à l'être humain toute la palette des possibilités de la vie. L'homme, l'être humain, n'échappe pas à la chronologie de sa vie, qui le mènera de la naissance à la mort, dans une continuité inévitable. Mais il peut y déceler, y reconnaître des moments de surgissement imprévu qui vont être de l'ordre de l'inattendu, qui va offrir une sorte de discontinuité dans la routine du quotidien et de l'inévitable. Ce sera ce moment à saisir comme l'instant juste, de justesse, une prise de conscience apportant un éveil de cette conscience, peut-être un symbole de la rencontre entre l'humain et le divin. Au fond, le baptême, pourquoi pas moi ? C'est cette question que toi, Eva, tu t'es posée il y a quelques mois. Une réflexion sur le baptême s'était amorcée pour un autre membre de ta famille dont tu allais être la marraine. Et tout s'est déclenché. Ce geste traditionnel du baptême, qui a de la valeur en soi, mais qui semblait concerner d'autres personnes que toi, a pris en un instant une importance insoupçonnée. Il a semé en toi un désir de creuser quelque chose de plus profond, quelque chose qui resterait encore à comprendre pour toi-même. Découvrir, et même accepter quelque part, que tu n'es pas seul, mais que tu es accompagné par ce que nous appelons notre vocabulaire, le Dieu de Jésus-Christ. Tu as pris conscience que tu étais habité par une espérance qui te donnait la capacité de discerner une beauté inattendue, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouvais. Alors, nous avons cheminé à travers quelques textes de la Bible et tu t'es rejointe par cette parole de l'Ecclésiaste. qui invite l'être humain à s'élever au-dessus de l'instant singulier qu'il est en train de vivre, surtout si celui-ci est mauvais. Parce qu'en toi, comme en chacun de nous, chacune de nous, Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, selon la traduction de Louis II, corrigée par la nouvelle version seconde qui traduit « Dieu a mis la durée dans leur cœur ». Et la variété des traductions nous oblige à repenser la notion d'éternité. Et contre toute attente, éternel dans la Bible, ce n'est pas de l'immortalité dont il s'agit, mais plutôt de quelque chose qui effectivement n'a peut-être pas de fin, mais dans le sens d'inaltérable. Et plus que la durée, au fond, c'est en termes de qualité qu'il faut penser l'éternité. Et dans ce cas, alors, ce fameux kairos, ce moment précis et inattendu, quelque chose qui était caché en fait, jaillit, et en lui, en ce moment-là, jaillit une parcelle d'éternité qui donne une joie que nul ne pourra ravir, que nul ne pourra vous ravir, comme le dira plus tard Jésus dans l'évangile de Jean, et qui nous fera prendre conscience qu'en dépit de savoir que notre vie se déroule sous le signe de l'incertitude et que beaucoup de choses nous échappent, que nous sommes encore maintenant dans l'incapacité de percer le mystère de Dieu, et bien de constater que cependant, il reste en nous une joie inaltérable. Alors, mes amis, frères et sœurs, dans la foi comme en humanité, le baptême n'est pas une fin en soi. L'aventure de la découverte de la foi, de la spiritualité et aussi cette recherche de la présence de Dieu a décelé parfois dans des situations les plus douteuses, voire les plus problématiques. Eh bien, cette aventure ne fait que commencer. Parce que c'est l'aventure de toute une vie. Et le livre de l'Ecclésiaste nous enseigne que bien des réponses ne seront pas données. Ou alors, si elles le sont, elles le sont de façon pas toujours très claire. Et il faut toujours et encore chercher. Nous sommes des chercheurs de Dieu, du premier jour au dernier. Bon, le mieux, c'est de chercher avec d'autres. Parce que ce sont les autres qui donnent de l'intensité à ce que nous vivons. Découvrir avec eux, et même par eux, que l'essentiel dans tout cela est à ne pas oublier, et c'est urgent, que nous sommes d'abord aimés de Dieu. Et qu'une fois qu'on l'a découvert, alors le reste de la vie consiste à répondre à cet amour par tous les moyens. Bon, chouette. Merci Eva, parce que c'est aujourd'hui que tout commence. Amen.
Thank you.
Merci Aurélien de nous avoir interprété le clair de lune de Debussy, que vous aurez sûrement reconnu. Dans le cantique Louange et prière, je vous invite à prendre maintenant le numéro 289 dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, Bienheureux qui t'aime. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Alors, je suis chargée de partager avec vous quelques annonces qui seront très courtes puisque c'est un temps particulier que celui des vacances dites de printemps. La pause spirituelle de jeudi prochain sera assurée par ma collègue et consœur Béatrice Cléromazir. Dimanche prochain, 8 mai, pardon, il y aura un culte avec baptême d'une petite fille de 7 ans. Donc dimanche prochain, et ce culte, je le présiderai. Et puis, je vous invite à retenir d'ores et déjà la date du lundi 9 mai à 20h, ici même dans ce temple. Nous recevrons le professeur Olivier Abel pour son dernier livre qui s'intitule « De l'humiliation, le nouveau poison de la société ». Donc retenez cette date, lundi 9 mai, 20h, ici même, dans ce temple. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois, c'est le 1er mai. Vous pouvez mettre un brin de muguet dans les, comment est-ce qu'on dit déjà, les paniers. Mais si vous pouvez l'accompagner de quelque chose de plus sonnant et trébuchant, ce serait parfait. Tout simplement parce que c'est le dimanche de l'entraide. Et que vous savez combien les associations d'entraide ont besoin de votre solidarité actuellement. Donc, nous comptons sur votre générosité. Eh bien voilà, maestro, on y va. Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Éternel Dieu de la vie, tout d'abord nous voulons te dire merci, merci pour tout ce que tu nous donnes. Et merci pour cette joie que nous avons à offrir. Et ce que nous partageons aujourd'hui est tout simplement un signe de notre engagement à ton service, mais aussi à l'annonce de ta parole. Nous te disons notre gratitude, notre reconnaissance pour le baptême d'Eva. Et nous te prions pour celles et ceux qui auraient bien voulu se joindre à nous physiquement, mais qui ne le peuvent pas, quelle que soit la raison. Nous te demandons chacun à notre manière d'accorder ta bénédiction sur la vie d'Eva, de sa famille, de ses amis, de ses proches. Et qu'ainsi, à travers ce geste apparemment banal, un peu d'eau sur la tête, eh bien, permet, Seigneur, qu'à travers ce geste, chacun reçoive une petite parcelle de bonheur. Bonheur du chemin parcouru, bonheur de la découverte de toi. Bonheur de savoir que nous ne sommes pas seuls. Quelles que soient les étapes de la vie que nous avons à franchir. Alors nous voulons te confier maintenant celles et ceux qui se trouvent dans des impasses, impasses de santé, impasses de travail, impasses de solitude, impasses de désespoir, et permet que chacun à notre manière nous puissions être là où tu nous as placés, des petites lumières de présence, de soutien, d'espérance, de joie. Nous te présentons celles et ceux qui ont demandé le secours de notre prière, quel qu'il soit, et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Merci pour ta parole qui nous rejoint toujours de façon imprévue, là où nous en sommes. Merci pour cette parole qui propose des réponses sans pour autant les imposer. Merci de nous encourager à encore chercher, à approfondir et à découvrir chemin faisant exactement ce que tu attends de nous. Bénis le travail et l'engagement de celles et ceux qui sont dans toutes les associations d'entraide. Bénis et accompagne l'engagement et le travail des conseils presbytéraux au sein de nos églises. Et garde-nous encore, toujours, dans ce lien d'amour fraternel qui est le seul lien par lequel chacun pourra reconnaître ta présence et ton action dans notre monde. Aussi, c'est dans cette confiance renouvelée que nous te disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, Recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur avec ces quelques mots d'envoi. Prenez le temps de jouer, c'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de rire, c'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner, c'est du pain pour l'affamé. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Et prenez le temps de prier, c'est votre force sur cette terre. Alors, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous aussi vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit-Saint. Allez dans la joie de votre Seigneur. Amen. Et nous reprendrons le cantique louange et prière. Oui, nous chanterons le cantique numéro 256, les strophes 1, 2 et 3. Et pendant ce temps, Eva, je vais descendre, mais nous allons signer le registre de baptême.